Chapitre 13.
Tel un arc de feu immaculé, John R. Isidore filait dans le ciel de cette fin d'après-midi en direction de son foyer, sa journée de travail terminée.
« Je me demande si elle se trouve encore là-bas, dans ce vieil appart infesté de tropies, à regarder l'ami Buster à la télé et à trembler de peur chaque fois qu'elle s'imagine quelqu'un dans le couloir, y compris moi, je suppose. »
Il avait déjà fait une halte chez un épicier du marché noir. Sur le siège passager, un sac rempli de mets aussi délicats que du caillé de soja, des pêches mûres, un bon fromage bien coulant, entre autres friandises, se balançait d'avant en arrière selon qu'il accélérait ou ralentissait. L'attention qu'il habitait ce soir le faisait conduire d'une façon passablement dangereuse. Et sa voiture, qui venait en principe d'être réparée, toussait et peinait comme elle l'avait fait pendant des mois avant la révision.
Quelle bande de salauds!
L'odeur des pêches et du fromage tourbillonnait dans la voiture, lui chatouillant agréablement les narines. Uniquement des produits exceptionnels pour lesquels il avait dilapidé 2 semaines de salaire que M. Sloat lui avait avancé. Sans compter la bouteille de Chablis qu'il avait glissée sous son siège pour éviter qu'elle ne roule, sans guère de succès. Une perle rare. Il l'avait gardée dans un coffre de la Bank of America, refusant obstinément de la vendre à quelque prix que ce fût, pour le cas où, un jour lointain, une fille se présenterait, ce qui ne s'était jamais produit, jusque-là. Comme toujours, le toit jonché d'ordures de son immeuble le déprima. Sur le trajet qui le séparait de la porte de l'ascenseur, il se ferma à sa vision périphérique, se concentrant sur la bouteille et le précieux paquet qu'il portait, en prenant soin de ne trébucher sur aucun débris qui l'entraînerait dans une chute fatale pour ses inestimables denrées. À l'arrivée grinçante de l'ascenseur, Isidore n'appuya pas sur le bouton de son étage, mais sur celui d'en dessous, où habitait désormais la deuxième occupante des lieux, Pris Stratton. Une fois devant sa porte, il frappa avec le goulot de la bouteille, le cœur battant à se rompre dans sa poitrine.
« Qui est là ?»
Sa voix étouffée par la porte restait néanmoins parfaitement nette, une voix terrorisée, mais aussi aiguisée qu'une lame.
« C'est moi, John Isidore !»
dit-il brusquement, adoptant l'autorité nouvelle qu'il venait si récemment d'acquérir au vidéophone.
« J'ai ici quelques produits de qualité, et je crois que nous devrions pouvoir improviser un dîner plus que convenable. »
La porte s'entrebâilla légèrement. Aucune lumière ne s'échappait de l'appartement. Pris risqua un œil dans l'obscurité du couloir.
« Votre voix a changé, » fit-elle. « Elle fait plus mûre. »
« J'ai dû régler un certain nombre de problèmes au bureau aujourd'hui. La routine. Si vous vouliez bien me laisser entrer,
vous me les raconteriez. »
Elle entr'ouvrit néanmoins suffisamment la porte pour le laisser entrer. Puis poussa une exclamation en voyant ce qu'il portait. Son visage s'illumina d'une joie espiègle. Mais presque aussitôt, sans crier gare, une sinistre amertume traversa ses traits, les pétrifia sur place. Toute joie avait disparu.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
s'enquit Isidore, qui alla poser paquet et bouteille dans la cuisine et revint aussitôt.
« C'est du gâchis de m'apporter ce genre de choses, »
fit Pris d'une voix sans timbre.
« Pourquoi ?»
Ah.
Elle haussa les épaules, fit quelques pas sans but, les mains dans les poches de sa lourde chemise démodée.
« Je vous expliquerai un jour. »
Puis elle leva les yeux au ciel.
C'était gentil de votre part, en tout cas. Maintenant, j'aimerais que vous me laissiez. Je ne suis pas d'humeur à avoir de la compagnie.
Et de se diriger distraitement vers la porte du couloir, entraînant les pieds, l'air épuisé, comme si sa réserve d'énergie s'était tarie.
Je sais quel est votre problème,
dit-il.
Ah.
Sa voix, alors même qu'elle rouvrait la porte, baissa encore d'un ton.
« Vous n'avez aucun ami. Vous allez encore plus mal que ce matin quand je vous ai vu. C'est parce que j'ai des amis. »
Sa voix s'était soudain durcie, pleine d'une nouvelle autorité. À l'évidence, elle retrouvait une certaine vigueur.
« Du moins, j'en avais. 7, au début. mais les chasseurs de primes ont eu le temps de se mettre au travail depuis. Certains d'entre eux, tous peut-être, doivent être morts à l'heure qu'il est. » Allant jusqu'à la fenêtre d'un pas nonchalant, elle se mit à fixer l'obscurité de l'extérieur. Seules quelques lumières brillaient çà et là. « Je pourrais bien être la seule survivante des huit. » « Vous avez sans doute raison. »«
C'est quoi un chasseur de primes ?»«
C'est vrai. Vous autres n'êtes pas censés être au courant. » »« Un chasseur de primes, c'est un assassin professionnel, à qui l'on donne une liste de gens qu'il est censé tuer. On lui paye une somme fixe, $1000 pour ce que j'en sais, pour chaque exécution. En général, il a aussi un contrat avec la ville. » Ce qui lui assure un salaire, mais suffisamment bas pour qu'il reste motivé.
Vous êtes sûr ?
Oui. Elle hocha la tête. Vous me demandez si je suis sûr qu'il est motivé ? Oui, il l'est. Il aime ça.
Je pense que vous vous trompez.
Jamais de toute sa vie, Isidore n'avait entendu parler d'une telle chose. L'ami Buster, par exemple, ne l'avait pas une fois mentionné.
« Ce n'est pas en accord avec l'éthique mercérienne actuelle, »
fit-il remarquer.
« Toute vie n'est qu'une. Aucun homme n'est une île, comme disait Shakespeare au temps jadis. »
« John Donne. » Isidore se mit à gesticuler d'agitation.
« C'est pire que tout ce que j'ai jamais pu entendre. Vous ne pouvez pas appeler la police ?»«
Non. » »«
Et ils en ont après vous. Ils viendraient ici pour vous tuer ?»
Il comprenait à présent pourquoi la fille agissait d'une manière aussi secrète.
« Pas étonnant que vous ayez peur et que vous ne vouliez voir personne. » « Elle doit se faire des idées. Ça doit être une psychotique avec délire de persécution. Les retombées lui ont peut-être causé des lésions cérébrales, à moins que ce ne soit une spéciale. « Je les aurai avant, » dit-il.
« Avec quoi ?»
Elle esquissa un sourire, dévoilant ses petites dents blanches régulières.
« Je vais récupérer un permis de port d'armes. C'est facile à obtenir dans le coin. Il n'y a presque personne et la police n'y patrouille pas. On s'attend à ce que vous vous défendiez par vous-même. »
« Et quand vous serez au travail ?»«
Je prendrai un congé. »
« C'est très gentil à vous, J.R. Isidore. Mais si les chasseurs de primes ont eu les autres, Max Polokov, Garland, Luba
et Asking, et Roy Beatty. »
Elle s'interrompit.
Roy et Irmgard Beatty. S'ils sont morts, ça n'a vraiment plus aucune importance. C'étaient mes meilleurs amis. Mais pourquoi n'ai-je plus la moindre nouvelle d'eux, bordel de merde ?
Elle jurait de colère. Isidore se fraya un chemin jusqu'à la cuisine pour sortir des assiettes, des bols et des verres qui n'avaient manifestement pas servi depuis longtemps. Il entreprit de les laver dans l'évier après avoir fait couler l'eau chaude pleine de rouille jusqu'à ce qu'elle s'éclaircisse enfin. Pris avait fait son apparition et s'asseyait à la table. Il déboucha la bouteille de Chablis, puis divisa en deux parts égales les pêches, le fromage et le caillé de soja. «
C'est quoi ce truc blanc ?
Pas le fromage. » Elle le pointait du doigt.
C'est fait à partir de petits laits de soja. J'aurais aimé avoir du...
Il s'interrompit, rougissant.
Autrefois, on en mangeait avec du jus de bœuf.
Un androïde,
murmura Price. C'est le genre d'erreur qu'un androïde est capable de faire. C'est comme ça qu'ils se trahissent. Elle s'approcha de lui, puis, à sa grande stupéfaction, lui passa un bras autour de la taille et se serra un instant contre lui.
« Je vais goûter une tranche de pêche, » dit-elle. Prenant délicatement entre ses doigts fuselés un quartier glissant recouvert d'un duvet rose-orangé. Et puis, au moment même de le mettre en bouche, elle se mit à pleurer. Des larmes glacées roulaient le long de ses joues, pour s'écraser sur le corsage de sa robe. Ne sachant comment réagir, Isidore continuait à partager la nourriture.
« Et merde !»
fit-elle avec fureur.
« Je... »
Elle s'écarta de lui, se mit à arpenter lentement la pièce à pas mesurés.
« Vous comprenez ?
Nous vivions sur Mars. C'est comme ça que je connais les androïdes. » Sa voix tremblait. À l'évidence, ça signifiait énormément pour elle d'avoir quelqu'un à qui parler.
« Et les seules personnes que vous connaissiez sur Terre sont vos camarades d'émigration. »
Nous nous connaissions avant le voyage. Une colonie à proximité de New York. Roy Beatty et Irmgard tenaient un drugstore. Lui était pharmacien. Elle s'occupait des produits de beauté, des crèmes, des onguents. Sur Mars, on utilise plein de crèmes pour la peau. Elle hésita. Roy m'a fourni diverses substances. J'en avais besoin parce que... Eh bien, c'est un endroit atroce. Ceci...
D'un geste empreint de violence, elle embrassa la pièce, l'appartement tout entier.
Ceci n'est rien. Vous croyez que je souffre de me retrouver seul? Merde. Tout le monde est seul sur Mars. C'est bien pire qu'ici.
Les androïdes doivent vous tenir compagnie, non? J'ai entendu une publicité sur...
Il s'assit pour manger. Elle leva bientôt son verre de vin qu'elle entreprit de siroter d'un air absent.
J'avais cru comprendre qu'il rendait les choses plus faciles.
Les androïdes peuvent se sentir seuls, eux aussi.
Vous aimez le vin?
Elle posa son verre. Il est parfait.
C'est la première bouteille que je vois en 3 ans.
Nous sommes revenus parce que personne ne devrait avoir à vivre là-bas. Ça n'a pas été conçu pour y vivre, du moins pas depuis le dernier milliard d'années.
C'est si vieux.
On peut le sentir jusque dans les pierres, cet âge terriblement canonique. Toujours est-il que Roy m'a fourni des drogues dans un premier temps. J'ai tenu le coup grâce à ce nouvel analgésique de synthèse, la silénisine. Puis j'ai rencontré Horst Hartmann, qui à l'époque gérait une boutique de philatélie, de timbres rares. On a tellement de temps à tuer qu'il faut trouver une occupation, quelque chose qui vous absorbe continuellement. Et Horst m'a ouverte à la fiction précoloniale.
À de vieux livres, vous voulez dire?
Des histoires écrites, avant les voyages spatiaux, mais sur les voyages spatiaux.
Comment pouvait-il y avoir des histoires sur les voyages interplanétaires avant?
Les écrivains les inventaient.
À partir de quoi?
De leur imagination. À maintes reprises, ils se sont trompés. Par exemple, ils ont dépeint Vénus comme une jungle paradisiaque avec d'énormes monstres et des femmes vêtues de plastrons étincelants.
Elle le dévisagea.
Ça vous parle, ça? De grandes femmes avec de longues tresses blondes et des plastrons brillants de la taille de melon?
Non.
Irmgard est blonde, mais petite.
Quoi qu'il en soit, il y a une fortune à se faire sur Mars dans la contrebande de romans précoloniaux, de vieilles revues, de livres et de films. Il n'y a rien de plus excitant.
Lire des descriptions de villes et de gigantesques complexes industriels, d'une colonisation véritablement réussie, imaginez ce à quoi ça aurait pu ressembler. Ce à quoi Mars aurait dû ressembler.
Des canaux. Des canaux?
Il se rappelait confusément avoir lu quelque chose à ce propos. Jadis, on croyait à l'existence de canaux sur Mars,
qui sillonnaient la planète, fit Price.
Et d'êtres venus d'autres systèmes solaires, d'une sagesse infinie.
Et des histoires qui se passent sur Terre, à notre époque et même plus tard, dans lesquelles il n'y a pas de retombées radioactives.
Je crois,
maugréa Isidore,
que ça doit faire plus de mal que de bien.
Au contraire,
fit Price d'un ton cassant.
Et vous avez rapporté des exemples de cette littérature précoloniale?
L'idée de s'y pencher lui avait traversé l'esprit. Ça ne vaut rien ici, vu que ça n'a jamais marché sur Terre.
De toute façon, il y en a plein les bibliothèques. C'est là qu'on a récupéré tous les nôtres, dans les bibliothèques de la Terre, qu'on pille pour envoyer ensuite notre butin sur Mars par autofusée.
Imaginez-vous en promenade nocturne dans la campagne, quand soudain vous voyez un flamboiement. C'est une fusée qui vient de s'éventrer, avec toute sa cargaison de revues précoloniales dispersées ici et là, une fortune. Mais, bien sûr, on les lit avant de les vendre.
Le sujet, à l'évidence, l'enthousiasmait.
De tous les...
Quelqu'un avait frappé à la porte d'entrée.
Je ne peux pas y aller,
fit Price, soudain livide.
Ne faites aucun bruit. Asseyez-vous.
Elle se tendit, à l'écoute.
Je me demande si la porte est fermée à clé,
ajouta-t-elle d'une voix presque inaudible.
Dieu, j'espère que oui.
Elle fixa sur lui des yeux sauvages, intenses, comme pour le supplier d'en faire une réalité. Une voix lointaine lança alors.
Price, tu es là?
Une voix masculine.
C'est Roy et Imgard. Nous avons eu ta carte.
La jeune femme se leva et se rendit dans la chambre pour en revenir avec un stylo et un bout de papier. Une fois assise, elle griffonna un message hâtif.
« Allez à la porte !»
D'un geste nerveux, Isidore lui arracha le stylo des mains et écrivit.
« Pour dire quoi ?»
D'une plume rageuse, elle griffonna.
« Vérifiez qu'il s'agit bien d'eux !»
Il se leva et traversa d'un air maussade le séjour.
« Comment pourrais-je le savoir ?»
se demanda-t-il. Il ouvrit la porte. Deux personnes se tenaient dans le couloir obscur. Une petite femme ravissante, à la manière de Greta Garbo, avec des yeux bleus et des cheveux de paille. L'homme était plus grand, avec un regard intelligent mais éteint, des traits mongoloïdes qui lui donnaient un air brutal. La femme portait une pèlerine à la mode, de hautes bottes vernies et un bas en fuseau. Quant à son compagnon, il était vêtu d'une chemise froissée et d'un pantalon taché qui semblait accentuer volontairement sa vulgarité intrinsèque. Lorsqu'il sourit à Isidore, ses petits yeux brillants continuèrent à le lorgner de biais.
Nous cherchons,
commença la petite blonde, avant de regarder par-dessus l'épaule d'Isidore. Son visage s'illumina alors de ravissement, et elle poussa Isidore pour pénétrer dans l'appartement.
Price, comment vas-tu?
Isidore se retourna. Les deux femmes étaient en train de s'embrasser. Il s'écarta pour laisser entrer Roy Beatty, sombre et massif, un sourire singulier au coin des lèvres.